Ce soir, on voulait donner juste deux mots d'introduction générale. Pourquoi nous avons choisi ce titre, Mes brebis? Quelqu'un m'a dit, ça va être de l'école du dimanche. Eh bien, bon. Mais l'expression se retrouve dans deux chapitres fondamentaux. Nous allons jeter un coup d'œil, auquel on reviendra fréquemment. Ézéchiel 34, la parole de l'Éternel vint à moi, prophétise contre les pasteurs d'Israël. Et puis, c'est l'Éternel qui parle, c'est une vision. Il répète une dizaine de fois « mes brebis ». « Mes brebis ont été dispersées, mes brebis, je les chercherai, je les ramènerai. » Dans Jean 10, qui est en quelque sorte la contrepartie du chapitre d'Ézéchiel, auquel nous reviendrons aussi en détail, le Seigneur parle plusieurs fois de « les brebis ». C'est vers la fin seulement qu'il dit « mes brebis » au verset 27. « Mes brebis écoutent ma voix, elles me suivent, leur donnent la vie éternelle. » Mais c'est le Seigneur Jésus qui le dit. Pour le prophète, c'était une vision, mais c'est le Seigneur lui-même venu, Dieu manifesté en chair, qui parle de mes brebis. Et nous avions ajouté en dessous, « Mon Père me les a donnés, mais il a fallu qu'il les rachète. » Alors, il y a tout d'abord donc les brebis loin du berger, puis les soins du berger, ce que nous verrons ce soir. Comme deuxième sujet, mon troupeau, le troupeau du Seigneur. Et entrer et sortir, ce que le Seigneur dit, il sera sauvé, il entrera, il sortira, il trouvera de la pâture. J'avais eu ce sujet il y a bien des années, entrer et sortir, ça a donné lieu à une brochure qui existe encore. Je crois que notre frère, mon voisin, de l'autre côté, c'était la première fois qu'il venait. Allez-y, c'est vieux. On a été heureux de l'avoir pendant plus de 30 ans avec nous. Alors, deuxième sujet, troisième sujet, un seul troupeau, un seul berger, c'est ce que le Seigneur dit lorsqu'il amènera d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie, c'est-à-dire juifs des nations. Il nous donnera lieu à développer cette pensée, suivre ces nations réunies en un seul corps. Et alors, au quatrième chapitre, paître le troupeau. On a vu dans la dernière retraite qu'il y a des sous-bergers, nous a dit notre frère Bryce. C'est-à-dire des bergers et des pasteurs, c'est bien sûr le même mot, mais pas tout à fait le même sens, qui ont à s'occuper du troupeau. Et alors, le contraste entre le caractère de chasseur et le caractère de berger, le chasseur qui trouve son plaisir au dépens de sa proie. Il y a plusieurs hommes dans la Bible qui sont marqués ainsi, mais d'autres qui ont été formés comme bergers, et un plus que tout autre, l'apôtre Paul, d'abord chasseur, persécutant l'assemblée, entrant dans les maisons, battant dans les synagogues et tout, et puis arrêté sur le chemin de Damas et devenons un berger remarquable, et bien plus encore. Et enfin, le grand pasteur des brebis, qui s'applique à la résurrection du Seigneur Jésus, et tout ce qu'il est comme berger en quelque sorte ressuscité. Alors ça dépasse un petit peu l'école du dimanche. Pierre va nous introduire dans le premier sujet.
Nous étions il y a quelques jours, trois jours, Samy et moi, avec une troupe de jeunes,
à 3000 mètres devant un paysage extraordinaire, devant les Alpes pleines de glaciers, de rochers vertigineux. Et devant ce spectacle, il y a un objet qui m'a frappé, une croix. Une croix. Et là, je me suis posé la question, que signifie pour moi-même et pour chacun de nous, la croix de Christ? N'est-elle pas le centre de l'humanité, le centre du temps et de l'espace? L'œuvre de Christ à la croix place l'humanité entière devant deux possibilités. Soit la première, se placer sous l'autorité de Dieu, du Dieu sauveur, du Dieu d'amour, du bon berger qui rassemble, qui conduit, qui nourrit et guérit. Ou alors, se placer sous l'autorité de Satan, le destructeur. Sous quelle autorité nous plaçons-nous? Ou plus encore, si nous avons choisi l'autorité de Dieu, réalisons-nous chacun d'où et comment nous avons été tirés de notre position antérieure sans Dieu. Dans l'Épître aux Romains, au chapitre 6, au verset 22, nous lisons le texte suivant. Maintenant, ayant été affranchis du péché et asservis à Dieu, vous avez votre fruit dans la sainteté et pour la vie éternelle, car les gages du péché, c'est la mort, mais le don de grâce de Dieu, c'est la vie éternelle dans le Christ Jésus, notre Seigneur. Et dans le livre du Deutéronome, la parole nous appelle par ce cri d'espérance que nous lançons encore ce soir. Choisis la vie afin que tu vives. Deux vies, donc totalement différentes, découlent de ce choix. Dans leur origine, dans leur source, dans leur raison d'être et dans leur but. Caïn, quittant la présence de Dieu, déclare ceci. Je serai errant et vagabond. Je serai. Cette position déterminée découle d'une position et d'une décision personnelle, volontaire. Et c'est bien là l'état du monde sans Dieu, errant et vagabond. Je serai errant et vagabond. Par opposition, le disciple Pierre déclarait à Jésus en Jean 13, « Je laisserai ma vie pour toi. » Et plus encore, en Jean au chapitre 6, « Seigneur, auprès de qui nous en irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. » Voilà, notre sujet a pour but d'approfondir d'abord l'état de l'homme sans Dieu. Ainsi, notre premier chapitre s'intitule « Les brebis loin du berger » et notre deuxième chapitre concerne l'homme avec Dieu, soit les soins du berger. Prenons le premier chapitre, « Les brebis loin du berger » et lisons dans le livre d'Ézéchiel au chapitre 34. Ézéchiel 34, verset 4. « Vous n'avez pas fortifié les brebis faibles, et vous n'avez pas guéri celles qui étaient malades, et vous n'avez pas bandé celles qui étaient blessées, et vous n'avez pas ramené celles qui étaient égarées, et vous n'avez pas cherché celles qui étaient perdues, mais vous les avez gouvernées avec dureté et rigueur. Et elles ont été dispersées, parce qu'il n'y a pas eu de pasteur, elles étaient la pâture de toutes les bêtes des champs. Elles ont été dispersées. Mes brebis ont erré dans toutes les montagnes et sur toutes les hautes collines. Et mes brebis ont été dispersées sur toute la face du pays. Il n'y a eu personne qui les ait recherchées, personne qui ne se soit enquis d'elles. » Oui, prenons trois catégories de brebis, trois catégories de personnes sans Dieu. La première catégorie, l'homme errant. La deuxième catégorie, l'homme perdu. La troisième catégorie, l'homme dispersé. La première catégorie, l'homme errant. Pourquoi des êtres humains errent-ils? Ézéchiel donne deux raisons dans les versets que nous avons lus. La première, ce sont les pasteurs qui font errer par leurs mauvais enseignements, laissant ainsi de fausses doctrines s'infiltrer. Deuxièmement, ils sont laissés sans berger, donc manquant de soins. Ils ne savent ni comment, ni quoi faire. Placé sans autorité, l'homme erre sans but,
à court et à long terme. Sans raison d'être, il se laisse aller aux joies et plaisirs du moment. Que dit la parole de cette personne? Ils se sont tournés chacun vers son propre chemin. Ésaïe 53. Ils se sont tournés. Le deuxième passage, ayant laissé le droit chemin, ils se sont égarés. 1 Pierre 2, verset 15. Oui, l'acte est volontaire et personnel. Ils se sont tournés, ils se sont égarés. Caïn disait, je serai vagabond et errant. Cette position d'errant n'est-elle pas aussi le résultat de l'orgueil, de l'égoïsme, de la volonté conduisant tôt ou tard à la tristesse, la pitié de soi, la haine de soi, la culpabilité, le découragement? Et jusqu'où cela peut-il conduire? Et où vont-ils? Et où vont-ils? Ézéchiel décrit aussi leur état, allant de montagne en colline, ayant oublié leur bercail, c'est-à-dire errant, ayant oublié et délaissé l'autorité de Dieu. Ils tombent dans la lassitude et le désintérêt dont découle la misère spirituelle. Vous étiez en ce temps-là sans Christ, sans droit de cité en Israël, et étranger aux alliances de la promesse, n'ayant pas d'espérance, étant sans Dieu dans le monde. Éphésiens 2, verset 12. La seule option pour l'homme errant et vagabond, quelle est-elle? N'est-elle pas d'accepter Christ dans sa vie, accepter qu'il est mort avec lui et s'exclamer comme l'apôtre Paul, « Je ne vis plus moi, mais Christ vit en moi » Galates 2, verset 20. Appartenir au Maître céleste, au Maître divin, à ce Maître qui est actif, actif en nous et plein de bonté. Comment pouvons-nous aujourd'hui, nous qui connaissons telle et telle personne qui erre, telle et telle amie, telle et telle connaissance, telle et telle enfant, frère ou sœur, qui a entendu, qui a connu et qui maintenant erre? Comment pouvons-nous aujourd'hui agir pour aider une telle âme pour laquelle Satan le destructeur lui fait miroiter la sécurité, le bonheur, la joie? Je suggérerais trois possibilités. La première, revoir les causes de la rébellion contre l'autorité. La deuxième, examiner comment sa vie en a été affectée. Et troisièmement, l'amener à Christ, en soulignant que le chrétien n'est pas un vagabond, mais qu'il est un pèlerin avec un but, Jésus-Christ. Venons maintenant à l'homme perdu. L'homme perdu, il est abandonné. Abandonné, l'homme n'a plus d'appartenance. Il en désire une, mais il ne la trouve plus. Pécheur perdu, qui dans votre misère, vers un Dieu saint, n'osez lever les yeux. C'est notre cantique 153. Que dit le Seigneur Jésus de cette âme perdue? Ah, je la laisse. Pas du tout. Premièrement, le Seigneur dit ceci, la perdue, je la chercherai. Ézéchiel 34. C'est-à-dire lui-même. Et puis, en Luc 15, jusqu'à ce qu'il l'ait trouvée, jusqu'à, avec persévérance. Lui-même, avec persévérance. Et nous, notre action n'est-elle pas d'aller personnellement, nous-mêmes, vers l'âme perdue? Et ceci, comme le Seigneur, jusqu'à ce qu'il l'ait trouvée, soi-même et avec persévérance. La perdue, je la chercherai jusqu'à qu'il l'ait trouvée. Deuxième étape, que fait le Seigneur dans la deuxième étape? Et l'ayant trouvé, il la met sur ses épaules, bien joyeux. Tendresse, affection, contact direct. Et nous, notre action avec le Seigneur, ensemble avec le Seigneur, pour une telle âme perdue, n'est-elle pas également de nous intéresser à cette âme perdue, lui apporter tendresse et non rejet, lui apporter affection et la prendre sur soi? Un petit témoignage personnel. Lorsque j'avais une vingtaine d'années, j'étais aux États-Unis, et certainement qu'à un moment, ma vie avait décliné, ma vie spirituelle. Et j'avais fait l'expérience d'un message qui avait été donné à plusieurs personnes par un évangéliste. Et ce message m'avait touché, m'avait frappé. Et après ce message, quelqu'un s'est approché de moi et m'a parlé avec tendresse. Et m'a pris et m'a amené dans une maison où il y avait d'autres personnes, d'autres jeunes, qui aussi avaient été touchés par le message. Et là, j'avais été accueilli, entouré et ramené. Ézéchiel, chapitre 34, dit « La blessée, je la banderai, et la malade, je la fortifierai. » Il ne dit pas « je la guérirai », mais « j'en prendrai soin ». Et c'était bien l'expérience que j'avais faite. Alors, premièrement, bander la blessure. N'est-ce pas pour nous amener une âme à déposer son fardeau au pied de la croix, d'être ainsi lavé, purifié par le sang de Jésus? Le sang de Christ nous purifie de tout péché. Ensuite, fortifié. N'est-ce pas notre responsabilité d'amener une telle personne devant les promesses de la parole de Dieu? Et ensuite, l'ayant trouvé, que fait le Seigneur? Il la met sur ses épaules, triste, tout joyeux. Le 15 nous dit, en plus, il appelle ses amis et les voisins, leur disant, réjouissez-vous avec moi, car j'ai trouvé ma brebis perdue. Oui, se réjouir, frères et sœurs, sommes-nous prêts à ouvrir nos cœurs, nos maisons, nos rassemblements dans la joie pour recevoir la brebis retrouvée? Troisième possibilité, c'est l'homme dispersé. C'est l'homme qui a subi l'œuvre de l'ennemi et a pour conséquence des pensées sombres, de vengeance, de meurtre, de révolte, de destruction. Pourquoi? Parce qu'il a subi l'œuvre de l'ennemi. Que fait le Seigneur pour l'homme dispersé? Jésus est mort pour rassembler en un les enfants de Dieu dispersés. Jean 11, verset 52. Et Dieu ajoute en Ésaïe 54, « Avec une grande compassion, je te rassemblerai. » Rassembler indique la communion d'esprit et d'amour dans lequel les croyants ne sont plus qu'un cœur et qu'une âme en Jésus. Devant les foules, caractérisées par des âmes errantes, perdues, dispersées, que fait Jésus? Il apporte quatre solutions aux foules dispersées. Devant les foules, les personnes qui nous entourent, ne serions-nous pas prêts à agir de la même manière? La première manière du Seigneur d'agir, il est ému de compassion. Devant les foules dispersées, ensuite le Seigneur guérit leurs infirmes. Troisièmement, il les nourrit. Et quatrièmement, il invite à supplier le Seigneur de la moisson pour des ouvriers. Premièrement, sommes-nous émus de compassion devant les foules de 1990? N'avons-nous pas plutôt un sentiment de rejet devant les foules désemparées qui bougent plus que jamais, menées de gauche et de droite, par les événements naturels, politiques, par la musique, par le sport, ou plus encore, par les philosophies diverses, et surtout les philosophies qui viennent de l'Orient? Qu'est-ce qu'être ému de compassion? C'est avoir un sentiment de pitié qui nous rend sensibles aux maux d'autrui
c'est chercher, prendre sur soi, ouvrir son cœur. Deuxièmement, il est dit que le Seigneur guérit les infirmes. Premièrement, il est ému de compassion, et ensuite il guérit les infirmes. Tu as augmenté la force de mon âme. S'approcher du drogué, s'approcher du malade du sida, de l'alcoolique, s'approcher de l'infirme, de l'handicapé, du sénile ou de l'enfant estropié. N'avons-nous pas des hôpitaux souvent comblés, des cliniques psychiatriques polluées, des prisons où la misère excelle? Que le Seigneur soit loué pour tant de chrétiens qui se forment et consacrent leur temps, leur argent et même leur vie à tel point. Appelons les croyants à guérir les infirmes et collaborons d'une manière ou d'une autre dans ce service de dévouement. Et puis enfin, troisièmement, le Seigneur nourrit les foules. On dit de l'armée du salut qu'elle a pour mission les trois S. Savon, soupe, salut. Avons-nous pensé à nourrir avant de prêcher? La nourriture que nous apportons est-elle ensuite adaptée à notre auditoire d'adultes, d'enfants et de jeunes? Et enfin, quatrièmement, le Seigneur supplie pour les ouvriers. Prier pour que le Seigneur les bénisse est une chose, nous le faisons dans nos réunions de prière. Mais ajoutons des supplications pour qu'il envoie des ouvriers qui participent à la moisson des brebis dispersées. Jésus est mort pour sauver, nous racheter et aussi pour rassembler. La deuxième partie qui nous occupe, ce sont les soins du berger. Et ce sujet, nous l'avons divisé en quatre parties. Le berger recherche. Deuxièmement, le berger fait sortir. Troisièmement, le berger conduit. Et quatrièmement, le berger nourrit. Dans Ézéchiel 34, il nous est dit également: me voici, moi, et je rechercherai mes brebis, et j'en prendrai soin. David disait à Mephibosheth: j'userai de bonté envers toi. Et enfin, Jonathan disait à David: j'userai d'une bonté de l'Éternel. Premier chapitre, rechercher. Le Seigneur ne cesse de rechercher la personne délaissée, perdue ou dispersée. Dans quel but? Afin de la sortir de son état hors du monde, hors du pouvoir de Satan, hors de l'autorité de Satan. Les versets que nous venons de citer soulignent les faits suivants. J'en prendrai soin, j'userai de bonté. Qu'avons-nous comme ressources nous-mêmes pour prendre soin et pour user de bonté? L'Épître aux Galates au chapitre 5 nous dit ceci: un des fruits de l'Esprit est la bonté. Soyons donc remplis de l'Esprit de Dieu et laissons-le agir en nous pour que nous puissions rechercher l'homme délaissé, perdu ou dispersé, et ceci avec bonté. La deuxième chose que fait le Seigneur, il fait sortir. Lisons dans Jean 10, au verset 3. À celui-ci, le portier ouvre et les brebis écoutent sa voix, et il appelle ses propres brebis par leur nom et les mène dehors. Il les mène dehors. L'acte n'est ni violent ni tendre, mais n'est-il pas ferme et accompagnateur? Il les fit sortir des ténèbres et de l'ombre de la mort, et rompit leurs liens, dit le psaume 107. Mener ou accompagner quelqu'un hors de sa situation, hors du milieu corrompu dans lequel il est, le faire sortir de mauvaise compagnie, le faire sortir de doctrines étrangères, où il se sent finalement délaissé, perdu ou dispersé. Cela ne présuppose-t-il pas notre fermeté, notre amour, notre patience
est notre temps. Romains 12 dit « Surmonte le mal par le bien ». Autrement dit, cherchons à agir objectivement, en cherchant le bien pour mener une âme hors de sa situation et la mener dans des eaux paisibles. Troisièmement, il conduit. Il conduit, la parole nous dit, dans des sentiers de justice. Pour conduire, tout d'abord, le Seigneur va devant elle. Lui-même va devant elle pour conduire ses brebis, dans Jean 10. Admirable tableau d'une relation devenue intime, pleine de confiance et d'amour réciproque entre notre Seigneur et ses enfants. Ici, ce n'est plus le berger qui porte. L'homme a reçu les soins, le réconfort. Ici, il peut suivre, libéré de tout fardeau. N'est-ce pas là le résultat de s'être placé sous l'autorité de Dieu? Alors succède un plein épanouissement de la personnalité, de toutes les capacités et dons manifestés et mis à contribution efficacement et d'une manière constructive par l'Esprit-Saint. Deuxièmement, il les appelle par leur propre nom, par leur propre nom. La voix du berger, l'avons-nous entendue? Et si nous l'avons entendue, nous savons qu'elle est personnalisée, qu'elle est individuelle. Il nous appelle nom par nom. Et puis, elle parle au cœur. La voix du berger qui nous appelle par notre propre nom, Pierre l'a expérimenté. Pierre, repentant, appelé par son propre nom, s'exclame « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime !» En conduisant le troupeau, service pour lequel plusieurs parmi nous sont appelés à agir, sommes-nous prêts à conduire d'une manière personnalisée, individuelle? Et en touchant le cœur, ah oui, cela prend du temps, de l'énergie et demande beaucoup de dévouement. Mais suivant l'exemple du Seigneur, nos familles, nos églises, nos rassemblements ne seront-ils pas ainsi conduits dans de verts pâturages à des eaux paisibles? Et puis, il parle au cœur. Dans Psaume 78, il est dit « Il fit partir son peuple comme des brebis et les mena comme un troupeau dans le désert. Il les conduisit sains et saufs et ils furent sans crainte. » Parler au cœur. Premièrement, comme à des brebis. Il fit partir son peuple comme des brebis. Le Seigneur prend soin, il parle au cœur. Dans Matthieu 6, il est dit « Votre Père céleste sait que vous avez besoin de toutes ces choses. » Aussi peut-il ajouter « Ne soyez pas en souci. » Pourquoi ? Pas en souci pour votre vie, pas en souci pour le lendemain, pas en souci du vêtement, pas en souci de la nourriture. Mais me direz-vous, comment est-ce que cela est imaginable ? Eh bien, l'épître de Pierre nous donne la réponse. « Rejetez sur lui tout votre souci. » car il a soin de vous. Passerons-nous à cette nouvelle action demain, par la prière simple, spontanée? Exprimons les petites et les grandes préoccupations de nos vies. Il répond si merveilleusement, parce qu'il parle au cœur. Une deuxième expérience vécue personnellement, lorsque j'avais une vingtaine d'années, seul à New York, je prends le repas de midi avec quelques collègues et au milieu du repas, malheureusement, je tombe par terre évanoui. Transporté à l'hôpital, je me réveille sur un lit à côté de moi, deux mourants. Il faisait chaud. Et je ne savais pas ce que j'avais. Je savais à peine où j'étais. Et en fait, j'étais un peu désespéré. Mais dans une situation comme celle-là, frères et sœurs, que plusieurs d'entre nous avons vécue, le cri au Seigneur, et son cœur s'ouvre. Je retombe endormi et je me réveille. Quelqu'un me tient par la main, et cette personne, c'est mon cher oncle, ici présent. Pourquoi était-il à New York ce jour-là? Pourquoi et comment avait-il su que j'étais là? La réponse du Seigneur, de son cœur de père, était là, et les encouragements sont venus. La prière simple, spontanée, est le Seigneur qui répond par son cœur de Père. Et puis, dans ce verset, il nous est dit « saint et sauf », c'est-à-dire « il les conduisit saint et sauf ». Ésaïe s'exprime ainsi au chapitre 43 « Quand tu passeras par les eaux, je serai avec toi, et par les rivières, elles ne te submergeront pas, car moi, je suis l'Éternel, ton Dieu. » Et d'ajouter dans ce même chapitre « Ne crains pas, car je suis avec toi. » Et puis à la fin de ce verset de ce psaume 78, il est dit « Ils furent sans crainte. » La crainte est le mal du siècle, parce que nous vivons dans un environnement perturbé, plein de détresse. L'armement mondial n'a jamais été aussi important. On parle d'en détruire une partie, mais on sait très bien que par derrière, il y a des armes bien plus puissantes. Qui peut laisser ses enfants dans la rue, les laisser aller seuls à l'école? Qui peut voyager sans crainte? La parole nous dit « Ne vous inquiétez de rien. » Mais, en toute chose, exposez vos requêtes par des prières et des supplications avec action de grâce, et nous recevrons la paix de Dieu. Pour que la crainte s'en aille, appelons le Seigneur de nos vies par des requêtes, des prières, des supplications. N'est-ce pas lui qui apaisa la mer aux appels désespérés de ses disciples? Psaume 23, « Il me mène à des eaux paisibles. Il me conduit dans des sentiers de justice à cause de son nom. » Enfin, quatrième soin du berger, il les nourrit. Dans 1 Pierre au chapitre 2, il est dit « désirant le pur lait intellectuel afin que vous croissiez par lui ». Dans 1 Corinthiens au chapitre 10, « il buvait du rocher spirituel qui les suivait et le rocher était le Christ ». La nourriture est caractérisée de manière différente. Tout d'abord, elle est désirée avec ardeur. Ceci est dit trois fois dans la première épître aux Corinthiens au chapitre 14. Ensuite, pour nourrir, il faut être doué, c'est-à-dire chercher à être abondamment doué, dit la parole. Pourquoi? Pour l'édification de l'assemblée. Il faut aussi, en nourrissant, édifier. Il ne faut pas seulement apporter, mais il faut nourrir pour édifier. Celui qui prophétise parle aux hommes pour l'édification, en Corinthiens 14. Prendre garde que chacun soit édifié. Ensuite, la nourriture doit être intelligible. Il est dit dans la parole, si vous ne prononcez pas un discours intelligible, comment saura-t-on ce qui est dit? Car vous parlez en l'air. Et puis, enfin, parler avec brièveté. Mieux vaut prononcer cinq paroles avec intelligence afin d'instruire les autres. Voilà pour nourrir, adoptons des paroles simples et adaptons nos paroles au public. Il est inutile d'exiger un niveau spirituel au-delà de l'âge ou de la possibilité de compréhension de son public. Le Seigneur lui-même, lorsqu'il parle aux foules, il parle en parabole. Et lorsqu'il parle à ses disciples, il parle en particulier. Il fait encore plus avec ses disciples. Il leur interprète ce qu'il dit. Donc, dépendons du Seigneur, car c'est son esprit qui nous dirige et que la nourriture ainsi prenne du goût. Tes paroles ont été douces à mon palais, plus que le miel à ma bouche, psaume 119. Le résultat de cette vie avec le berger, de ces soins du berger, quelle est-elle? En Jean 10, le Seigneur dit que nous ayons une vie abondante, la vie abondante. Prions pour que cette vie soit abondante et qu'elle se répande autour de nous. Et n'accomplissons pas seulement ce que le Seigneur dit en Matthieu 25, au verset 35, verset que je vais vous lire. « Car j'ai eu faim, et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger, mais vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais infirme et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venu auprès de moi. Que nous puissions avec la parole dans 2 Corinthiens chapitre 9 dire Dieu est puissant pour faire abonder toute grâce envers nous, pour que vous abondiez pour toute bonne œuvre.
Dans l'introduction, le premier homme errant a été Caïn. C'est un jugement de Dieu. Et nous pourrions peut-être lire un ou deux versets concernant Caïn. Quant au chapitre 4 de la Genèse, Dieu lui dit « Qu'as-tu fait ?» au verset 10, « La voix de ton frère, etc. » Il peut alors lui dire ce que sera son jugement. Verset 11, « Maintenant tu es maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Quand tu laboureras le sol, il ne te donnera plus sa force. Tu seras errant et vagabond sur la terre. » Et Caïn dit à l'Éternel, « Mon châtiment est trop grand pour que j'en porte le poids. Voici, tu m'as chassé aujourd'hui de dessus la face de la terre, et je serai caché de devant ta face, et je serai errant et vagabond sur la terre, etc. » Il prend conscience que être errant et vagabond sur la terre, c'est être loin de la face de Dieu. Et c'est cela, en effet. Et nous voyons parmi les errants, nous étions errants, nous étions tels, loin de la face de Dieu. Et dans la parole, les personnes errantes qui nous sont signalées parmi elles, nous avons en Proverbe 5, au verset 6, la femme étrangère. Il est dit d'elle, elle ne pèse pas le sentier de la vie, et ses voies sont errantes. Et quand nous lisons cette expression, nous avons tous été errants, comme des brebis. Est-ce que nous apprécions ce que c'était, la situation désespérée dans laquelle nous avons été trouvés? On a mis en contraste celui qui est errant, donc sans chemin, sans but. Il est errant sur la terre. Et par contraste, le pèlerin. Tous les errants sont, si l'on peut dire, de la lignée de Caïn. Les pèlerins sont de la lignée d'Abraham, de l'homme des promesses, l'homme de foi. Quand est-ce qu'il est devenu un pèlerin, Abraham? C'est quand il était installé sur la terre, en un lieu, il était dans Ur des Chaldéens, et qu'une voix s'est adressée à lui, et qu'il lui a dit, et nous lisons ce qui est dit dans Actes 7, alors il nous a dit, le Dieu de gloire apparu à notre père Abraham lorsqu'il était en Mésopotamie avant qu'il habitât en Charan. Il lui dit, sors de ton pays et de ta parenté et viens au pays que je te montrerai. Le pèlerin, c'est absolument le contraire, le contraste avec l'errant. L'errant erre sur la terre et n'y trouve rien. Le pèlerin quitte la terre, moralement, spirituellement, mais vers un but. Parce que l'origine, c'est le Dieu de gloire qui lui parle et qui lui dit « Viens ». Le pèlerin va vers un but. La terre n'a plus de sens pour lui. Quelle grâce d'avoir été, d'errants que nous étions, fait des pèlerins. Mais des pèlerins, le sommes-nous vraiment?
N'est-ce pas intéressant aussi de voir que le frère de Caïn est devenu le premier berger? Nous lisons en Genèse 4 que c'est Abel qui a apporté des premiers-nés de son troupeau, n'est-ce pas? Lui a réalisé l'importance d'être un berger pour pouvoir apporter un sacrifice. Il a discerné l'importance du sang qui fait aspersion et aussi de la graisse qu'il a offerte à Dieu. Mais en Hébreux 11, verset 4, nous avons encore une fois une référence en ce qui concerne Abel. Et là, nous lisons, « Il a offert un sacrifice plus excellent par la foi. » Eh bien, c'est un homme qui avait une vision, c'est un héros de foi, et son sacrifice parle toujours, c'est un témoignage qui reste. N'est-ce pas beau de voir cela dans le premier homme qui était un berger, le frère de Caïn, qui est errant,
caractéristique d'une brebis errante qui ne retrouvera jamais son chemin. Et alors là, Abel, il prend soin d'un troupeau pour pouvoir en offrir à Dieu.
Soit errant, perdu ou dispersé, même si on est plusieurs dans cette condition, on y est chacun pour soi. Ce n'est qu'avec le berger qu'on est vraiment ensemble.
Juste de lire au sujet de ce qui a été dit, Proverbe 4, verset 18, où on voit d'un côté, peut-être au verset 18, ce qu'est le pèlerin et puis le vagabond. Mais le sentier des justes est comme la lumière resplendissante qui va croissant jusqu'à ce que le plein jour soit établi. Le chemin des méchants est comme l'obscurité. Ils ne savent contre quoi ils trébucheront. Et c'est extraordinaire de vieillir pour des gens qui ont un but dans la vie, parce qu'on se rapproche toujours plus du Seigneur. Et alors, on le sent quand on parle, on rencontre d'autres personnes qui ne sont pas croyantes, avec qui on s'est développé, qu'on connaît, qui ont des succès remarquables dans la vie, et ça devient une catastrophe, parce qu'il n'y a pas un but. Le but, c'était de grandir soi-même. Le but, c'était de réussir. Et finalement, le Seigneur nous donne un but dans la vie, et c'est extraordinaire. Le sentier des justes est comme la lumière resplendissante qui va croissant. Plus on vieillit, plus on voit le Seigneur, jusqu'au moment où le plein jour sera établi. Et je crois que ce contraste entre le vagabond, l'errant, et puis le pèlerin qui a un but est extraordinaire. Et pour ceux qui sont plus jeunes, je vous dis, ça vaut la peine.
Ça vaut la peine d'aller visiter des frères et sœurs qui sont peut-être dans un home,
et là on peut voir ce contraste.
Et qu'en visitant, on prend souvent de la graine. Permettez l'expression. Il est touchant de constater que des aînés, dans le chemin de la foi, de l'expérience chrétienne, ont quelque chose à nous dire de cette expérience, de ce qu'est le Seigneur dans ses soins de bon berger, de grand berger, de souverain pasteur des brebis.
Ces trois lignes, vous étiez errants, c'est ce qu'on pense de bien des personnes, peut-être qu'on ne leur dit pas en face, mais enfin vous étiez errants. Puis on doit reconnaître, nous avons tous été errants, je suis aussi de ceux-là, mais il faut arriver à dire « j'ai erré », psaume 119. Et alors, le berger vous trouve, quand on reconnaît « j'ai erré ».
Dans le chapitre 2 des Éphésiens, il y a un contraste qui est fait plusieurs fois entre autrefois et maintenant. Autrefois loin de Dieu et maintenant connaissant le Seigneur. Le lire pour soi-même, c'est un contraste saisissant entre ce que l'homme est avant de connaître le Seigneur et puis la grâce de Dieu, ce qu'elle fait. Maintenant.
Psaume 107, les premiers versets décrivent un peu ce qu'a dû éprouver Israël pendant ces 40 années de désert. Il nous est dit, comme ils avaient donc désobéi à l'Éternel, au verset 4, ils errèrent par le désert, dans un chemin solitaire. Et on voit comme est insisté là un chemin solitaire, se sentir seul dans sa misère et son dénuement, ce que nous disait notre frère Frédéric Feller. Ils ne trouvèrent pas de ville pour y habiter. Ils étaient affamés, altérés, leur âme défaillait en eux. Alors ils crièrent à l'Éternel dans leur détresse et il les délivra de leurs angoisses. Voilà les situations de l'errant. La solitude, il a faim, il a soif, il est dans la détresse, il est angoissé. Ils crièrent à l'Éternel. Alors, voilà la réponse. Il les conduisit dans un chemin droit pour aller dans une ville habitable.
Est-ce qu'on pourrait encore faire un commentaire général en ce qui concerne la brebis? Quand nous pensons que l'homme a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, quel personnage a dû être Adam et Ève, n'est-ce pas? La perfection. Et peu de temps après, nous voyons que c'est devenu par l'intervention du serpent. C'est devenu une humanité qu'on compare avec des brebis. Et il me semble, quand on regarde ces animaux, ils ont deux défauts, si je peux dire défauts. Et je crois que parce qu'ils sont ces deux défauts, ils sont bien caractéristiques comme image de moi-même, de mon nous-même. Premièrement, elles sont errantes parce qu'elles n'ont pas de sens d'orientation. Pratiquement tous les autres animaux retrouveront leur maison, leur bergerie, mais nous savons bien qu'une brebis se perd et les autres la suivent et ils se perdent tous. Et quelque chose qui caractérise encore une brebis, c'est qu'elle est sans défense. Il semble que tous les autres animaux ont quelque chose pour se défendre ou pour s'en aller vite. Que ce soit les ailes pour un oiseau, que ce soit des cornes, une chèvre, et que ce soit différentes autres fonctions que le Seigneur a données à une bête pour se défendre. Mais il semble que la brebis n'a rien pour se défendre. Et n'est-ce pas exactement ce que nous sommes devenus parce que nous avons écouté la voix de Satan? Eh bien, lui nous a menés sur un mauvais chemin et là nous sommes errants. Et il nous a aussi dépouillés de notre sûreté, ce qui était d'être en Dieu. Et maintenant, comme homme hors de Dieu, n'est-ce pas, nous sommes sans défense. Et c'est beau de voir que dans le bon berger, nous avons retrouvé le sens d'orientation parce qu'il va devant nous, il nous conduit, et nous avons aussi trouvé quelqu'un qui nous défend. Si on pense à un David, n'est-ce pas, qui est allé lutter un ours et un lion, c'est merveilleux. Eh bien, c'est une image du bon berger qui nous défend. N'est-ce pas saisissant de voir cette illustration? Ce n'est pas un animal d'honneur, n'est-ce pas? Quand on dit en allemand « tu bist schaf », eh bien, c'est péjoratif. Je ne sais pas si c'est comme ça en français, mais en tout cas, on sait ce qu'on dit. Et hélas, si on n'est que ça, c'est dommage. Mais qu'on trouve le bon berger qui veut être avec nous, et nous pouvons nous tenir près de lui aussi.
Hébreux 11, d'Abraham, il est dit: il s'en alla ne sachant où il allait. Une lecture superficielle nous ferait peut-être penser, ben voilà un bel exemple de quelqu'un d'errant. Pourtant, on vient d'entendre qu'Abraham n'est surtout pas l'exemple d'une brebis errante. Nous savons, comme croyants, où nous allons, c'est vrai. Mais il peut quand même arriver dans notre vie de croyant que le Seigneur nous invite à suivre un chemin et nous ne voyons pas quelles sont les étapes. Nous ne sommes pas errants parce que nous savons que le berger nous conduit. Alors il s'agit d'avoir cette confiance dans le berger, et lui va nous conduire, même si nous ne savons pas toujours exactement comment sera le chemin.
Il y a une certaine différence
entre errant, perdu et dispersé. On a abondamment parlé de errant, les brebis qui n'ont pas de berger. Alors, elles ne savent pas se conduire, comme on vient de le dire. Mais la brebis perdue, elle n'a rien du tout. Et alors le chapitre, qui est le cœur de l'évangile, Luc 15, la brebis est perdue, la drachme est perdue, le fils était perdu. Et chacune de ces paraboles se termine dans la joie.